Aujourd'hui, on a un message pour nous éveiller à quelque chose qui est grave, qui se passe aujourd'hui. Mais pour être conduit dans ce message-là, on a besoin de l'assistance de Dieu. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Yeshua qu'on est rassemblés et on te remercie de ta présence qui est au milieu de nous. On est reconnaissant de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, de cette œuvre de renouvellement, de rafraîchissement, de restauration, de guérison et de délivrance. Mais aussi, on veut te remercier pour le temps d'inspiration, de révélation de ta parole que tu vas nous donner. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs afin qu'on puisse apprendre à premièrement connaître ta voix, reconnaître ta voix, mais aussi à marcher dans l'obéissance dans ce que tu vas nous montrer. On manœuvre entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Le sujet que je vais vous parler aujourd'hui, il dure en deux messages. Il va avoir une continuité la semaine prochaine. Il y a des A. Je peux vous étirer ça jusqu'à une autre heure de plus, mais... mais ça, quand on en donne trop, trop c'est comme passer. Si tu as passé de la parole, tu faiblis spirituellement, mais si tu en as trop aussi... Des fois, on n'absorbe pas tout ce qu'on entend. On n'est pas tous des étudiants de l'école théologique. Puis je sais qu'on est bon pour une certaine quantité d'informations. Puis Dieu a fait ça comme ça. Sinon, on aurait été comme des ordinateurs. On aurait lu la Bible une seule fois. On la saurait par cœur. Puis on n'aurait plus rien à apprendre. Mais Dieu n'a pas choisi ça de même. Il nous a mis dans des capacités limitées. On apprend des choses, puis des fois, Dieu est obligé de répéter deux, trois fois qu'on comprenne comme il faut. Puis même des fois, il est obligé de nous le rappeler plus tard. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va voir un paquet de rappels que Dieu nous a donnés dans sa parole. La plupart de tous les versets, c'est encore dans le Nouveau Testament. Ça s'adresse à nous, les chrétiens qui sont ici aujourd'hui. Puis il y a tous ceux qui entendront ce message dans le temps où ce qu'on est rendu. Le titre du message est « Danger, discerner la fausseté dans l'Église ». Nous allons voir un autre aspect des ennemis des chrétiens, parce qu'on le sait que, en général, là, c'est classé en trois grands ennemis que les chrétiens ont. Le diable, qui est l'ennemi des chrétiens, le monde, qui est encore l'ennemi du chrétien, le monde dans ses pensées, dans ses enseignements, dans sa manière de vivre, et notre propre chair, qui est l'ennemi du chrétien. On a notre propre ennemi qu'on traîne toujours avec nous, puis qu'il y a un danger que si on l'écoute trop, qu'on s'égare du Seigneur. Aujourd'hui, on va voir un autre ennemi qui est un mélange des trois. On n'en parle pas souvent, mais dans la Bible, ça en parle beaucoup, dans le Nouveau Testament surtout. Puis le Seigneur nous a déjà donné des mises en garde là-dessus. Savez-vous que le mot « prenez garde » il est 22 fois dans le Nouveau Testament? Puis à part des mots « veillez », »,« faites attention », puis tu sais, il y a plein de synonymes qui sont dans le même sens. Qu'un chrétien ne devrait jamais se laisser aller à tout ce qui passe devant lui. Nous avons été avertis de plusieurs dangers qui guettent le chrétien. Pourquoi que le Seigneur nous avertit comme ça, puis que les apôtres nous ont avertis comme ça? C'est pas pour qu'on devienne paranoïaque, prenez garde, puis là on capote sur tout ce qu'on voit. Mais on doit apprendre à être sur nos gardes, à marcher avec circonspection, à analyser les choses, à ne pas adhérer à tout ce qui se passe ou à tout ce qu'on voit ou à tout ce qu'on entend. Philippiens 3:2 nous dit « Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. » Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on va comprendre une vérité qui nous amène à discerner la fausseté dans l'Église. Mais la première place qu'on doit vérifier, c'est pas dans notre voisin. que chacun s'examine lui-même face à la parole de Dieu. Jésus le dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien est grande ces ténèbres? L'idée, c'est qu'il faut vérifier nous-mêmes, on sonde, pour voir si tout ce qu'on pense ou tout ce qu'on dit est du Seigneur. Puis ensuite, il faut analyser ce qui se passe autour de ce qu'on voit, ce qu'on entend, pour être sûr que c'est du Seigneur, afin de ne pas participer à ce qui n'est pas du Seigneur. Quand il nous dit dans Philippiens, prenez garde aux chiens, c'est sûr qu'on voit des maisons qu'il y a des chiens dehors, c'est écrit prenez garde aux chiens, mais c'est pas ce genre de chien-là que Dieu veut qu'on prenne garde. Les chiens, selon ce qui est écrit là, c'est ceux qui ont le caractère ou la conduite impure, parce qu'un chien, c'est à considérer un animal impur dans un sens, comme ça mange, on sait que ce que ça peut gober, c'est pas un animal pur, c'est pas quelque chose qu'on peut consommer. L'idée, c'est que c'est dehors les chiens, il y a d'autres versets qui sous-entendent ça, que les chiens n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais ça parle de ceux dont le caractère et la conduite sont impurs. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Oups, ils commencent à nous dire, ça se peut qu'il y ait du monde qui enseigne des choses qui sont pas de Dieu. Aux faux circoncis, ça se peut qu'il y ait des gens qui sont pas réellement des convertis, mais qui sont là dans l'Église. Puis des gens qui annoncent des choses. Je vais vous mettre sur une piste là du prochain verset qu'on va lire. Faut pas avoir peur après ça de tout ce qui se passe dans notre Église. Le but est pas là. Le but est de comprendre qu'il peut se passer des choses qui sont pas de Dieu, puis il faut faire attention. Y a-t-il du danger de trouver du faux dans l'Église? On le sait que l'Église est composée de gens imparfaits. Il y a du danger de trouver du faux dans l'Église. 2 Corinthiens 11, 4. On va aller lire ce passage-là ensemble. C'est un des principaux que je veux qu'on nous réveille l'esprit sur quelque chose qui s'est déjà produit dans l'Église de Corinthe, puis qu'il y a du danger que ça se reproduise encore aujourd'hui. 2 Corinthiens 11, 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça, c'est des versets qui sont durs parce que ça vient d'ébranler toute la base de notre raisonnement. Pourquoi que je dis ça? Souvent, on a entendu qu'un chrétien ne peut pas être affecté par un autre esprit. Qu'à chaque fois qu'on entend le mot Jésus, que tout de suite, on est emporté à dire, c'est des frères et sœurs. Ou on entend des doctrines bizarres qui sortent, mais ils parlent de Dieu, puis ils parlent de Jésus. Puis là, on pense que ça doit être de Dieu, puis on est prêt à adhérer puis à accepter tout ce qui se produit. Les Corinthiens ont eu le même problème il y a 2000 ans, puis Paul les a avertis de quelque chose. Il y a du danger. Prenez garde, Corinthiens. Vous êtes en train de recevoir un autre évangile. Vous êtes en train d'écouter une autre manière d'être sauvé. Il y avait des gens qui troublaient l'Église de Corinthe, puis qui étaient en train d'enseigner des faussetés qui étaient plus conformes à ce qu'il avait été enseigné par Paul. Puis ces gens-là parlaient d'un autre Jésus. Ces Corinthiens-là t'ont rendu qu'ils étaient en train d'adhérer à penser qu'il y avait un autre Jésus. Pas que les gens y ont pris un autre nom que Jésus, c'est que le Jésus qui était présenté dans cette Église-là par ces personnages-là était un autre Jésus. C'était pas le Jésus de la Bible, le vrai Messie, le Oin, le Seigneur. Les gens étaient ouverts à recevoir un autre esprit, par imposition des mains ou peu importe, par tout ce qui était amené par ces faux-là qui étaient dans l'Église, les gens étaient infectés par un autre esprit. J'entends déjà les réponses. Un chrétien ne peut pas être affecté par un autre esprit. C'est pas dans la Bible que je lis. juste un exemple. Paul, il a été mis une écharpe dans sa chair, un ange de Satan pour le souffleter. Souvent, on est prêt à dire, « Oh, bien ça, ça doit être une maladie. » C'est pas ça que le texte dit. Il dit, « Un ange de Satan. » Ça veut dire que ça peut arriver qu'un chrétien soit contaminé par quelque chose qui n'est pas du Saint-Esprit. Je dis pas que tous les chrétiens le sont, mais ça peut arriver. Paul, il dit ailleurs, dans un autre passage, il dit, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez en communion avec les démons. » Ce qu'on sacrifie quand on va dans un temple d'idole, on le sacrifie à des démons. Puis un chrétien, c'est pas sa place d'aller dans un temple d'idole puis recevoir des touches de d'autres esprits qui ne sont pas l'Esprit de Dieu. Je dis pas qu'on a tous. Ça dit juste de prendre garde. Veillez. Faites attention à ce que vous entendez. Il y a d'autres évangiles qui circulent présentement, des évangiles de salut par les œuvres de la loi. Il y a des chrétiens présentement qui pensent qu'ils sont justifiés en retournant la loi, en se faisant circoncis, en retournant pratiquer les préceptes de Moïse, en rétablissant les fêtes de l'Ancien Testament, en pratiquant la loi. Ils débarquent de l'Évangile qui est du salut par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus, que Jésus a tout accompli, puis qu'on reçoit le salut comme cadeau, une grâce non méritée, qu'on ne pourra jamais mériter, qu'on ne pourra jamais acquérir par notre capacité, parce que c'est un cadeau offert par Dieu. C'est ça le vrai évangile. Mais il y en a des fausses évangiles. Là, je l'ai nommé celle-là, mais il y en a d'autres, puis d'autres qui proclament d'autres Jésus. Savez-vous qu'il y a des gens qui proclament des Jésus qui n'est pas Dieu? Il y a des églises qui proclament que leur Jésus n'est pas Dieu. Il y a des églises qui proclament que Jésus a un supérieur à lui qui s'appelle Marie. C'est pas le Jésus de la Bible. Il y a présentement d'autres Jésus qui sont annoncés. C'est là-dessus qu'il faut faire attention. Savez-vous que Jésus nous a annoncé qu'il y aura des faux Christ et des faux prophètes? Autant qu'il y a des fausses évangiles, d'autres esprits, d'autres Jésus, il y a aussi d'autres Christ. Matthieu 24, 23 nous dit, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, il dit, ne le croyez pas. » Comment est-ce qu'il y en a de frères et sœurs qui courent les églises pour aller chercher le Christ à quelque part? « Oh, il y a l'onction là-bas! » Puis ils s'en vont, ils pensent que Christ est toujours à quelque part ailleurs pour aller le chercher. Puis des faux prophètes, Jésus nous dit, s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ce qui est la course de ces gens-là, c'est qu'ils recherchent les miracles. Ils recherchent les soi-disant puissances. Les gens recherchent à vivre des choses miraculeuses. Là, ils courent vers les lieux de rassemblement pour trouver des prophètes miraculeux. Mais là, Jésus nous met en garde que ça se peut que tu envoies des réunions qui ont de l'air bien puissantes. Ça ne veut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est là. Ça dit qu'il va y avoir des faux prophètes, des gens qui se proclament prophètes, des gens qui se proclament être des porte-paroles de Dieu, puis qu'il va y avoir plein de miracles qui vont se passer, puis en fin de compte, c'est pas l'Esprit de Dieu qui est en arrière. Puis c'est dans le but de séduire. C'est ça qu'il nous dit dans ce passage-là. Ils feront des prodiges, des miracles au point de séduire. C'est une séduction. Ça, c'est en Matthieu 24, 23, 24. Matthieu 7, 15 nous dit encore la même chose. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Il faut faire attention qu'il n'y a pas avoir des proclamateurs de supposées vérités. Quand ils regardent, ça a l'air des chrétiens. Ils sont en vêtements de brebis, ça a de l'air des brebis, mais en dedans, c'est des loups. Matthieu 24, 11, il dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » On va voir dans la suite de l'étude pourquoi qu'ils séduisent, puis comment qu'ils séduisent. Ça a de l'air séduisant. Qu'est-ce qui est arrivé quand le diable est allé voir Ève dans le jardin d'Éden? Le diable a dit quelques paroles à Ève en utilisant des idées que Dieu avait dit, mais c'était dans le but de la séduire puis de la tromper. Fait que Ève a dit, hey, cet arbre-là, il a de l'air beau à la vue, il a de l'air bon à manger, il a de l'air précieux même pour ouvrir mon intelligence, elle est assez séduite. Elle croyait un mensonge, puis ça l'amenait à dire, hey, je peux me rebeller contre Dieu, tout est beau, ça a de l'air même avantageux que je fasse ça. C'est ça une séduction. Quand un faux prophète fait des miracles, faut pas dire amen, mais on ne sait pas au début que c'est un faux prophète. Mais on voit quelqu'un fait des miracles, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un envoyé de Dieu. Parce que, vous allez voir dans la suite, ça peut sur toutes sortes de facettes qu'on se fait proposer de nouvelles idées, puis ces idées-là sont dans le but de nous tromper, de nous séduire, puis nous emmener ailleurs que sur notre chef, Christ. Paul a aussi dit, dans 2 Corinthiens 11, au verset 13, qu'il y aurait de faux apôtres. Là, on voit des faux Christ, des faux prophètes, des faux apôtres. Dans le sens du mot, là, c'est de faux envoyés ou de faux ambassadeurs. Paul, il dit carré. Des fois, là, ce que Paul fait en le mentionnant ici, là, c'est aïe aïe. On a-tu le courage de dénoncer le faux? Paul, il dit, ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Il est en train de parler à les Corinthiens, il venait de le dire aux Corinthiens, ils étaient en train d'adhérer à un autre Jésus, à un autre esprit, puis à un autre évangile. Puis il lui dit, ces hommes-là qui vous prêchent, c'est des faux apôtres. Dans cette église-là, il y a des gens qui se sont autoproclamés apôtres, puis ils enseignaient des faussetés. Paul, il les a repris, c'est des faux apôtres, des ouvriers, trompeur, déguisé en apôtre de Christ. Puis c'est là qu'on l'a déjà entendu, cette suite-là. Et c'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres se déguisent en ministres de justice, mais leurs fins seront selon leurs œuvres. Combien de fois qu'on l'a dit, Satan il se déguise en ange de lumière. Ça veut dire, même si tu as des apparitions, même si un ange t'apparaît, tu ne dois pas écouter tout ce que tu entends de cet ange-là. Parce que si cet ange-là nous annonce une autre doctrine, une autre chose que qu'est-ce qu'on a entendu, la Bible nous dit qu'il soit anathème. Nous devons le rejeter dans le nom de Jésus. De ne pas laisser nécessairement notre pensée dit, oh oui, un ange nous parle, oh, je veux tout ce que tu as à dire. Puis là, on se nourrit de tout, puis là, on base notre foi sur notre expérience, plutôt de baser notre foi sur qu'est-ce que la Bible nous a déjà enseigné. Il y a un danger parce que le diable se déguise en ministre de justice. Il dit, ses ouvriers se déguisent en ministre de justice. Ça a l'air d'être des gens qui sont chrétiens, mais tout ce qu'il annonce, c'est des faussetés. Une autre chose que la parole de Dieu nous annonce qu'on retrouvera dans l'Église, c'est des faux docteurs. Faux Christ, faux prophètes, faux apôtres, puis là, ça nous parle de faux docteurs. Faux docteurs, c'est des gens qui enseignent des mensonges pour égarer les brebis. 2 Pierre 2.1 nous dit, c'est l'apôtre Pierre. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce qu'on lit dans ce verset-là, ça nous parle de faux docteurs, de faux enseignants qui vont introduire des sectes de perdition. Pourquoi qu'il faut en venir à comprendre toutes ces choses-là qui sont là dans la parole de Dieu? Parce que présentement, il y a comme une immense ouverture à une immense connaissance. Je vais vous demander ce que c'est. Par l'Internet. Il y a tellement, mais tellement de sites qui nous enseignent toutes sortes de choses sur la parole de Dieu, sur Jésus, sur les manifestations surnaturelles. Faut pas prendre tout comme du cash. Il faut être sur nos gardes. La Bible, il y a 2000 ans, nous enseignait qu'il y aurait des sectes pernicieuses, des mouvements de petits groupes de chrétiens ou des grands groupes de chrétiens qui enseigneraient des doctrines qui détourneraient la pensée des gens de Christ pour les amener à d'autres choses. C'est ça que ça dit. Il dit, ces sectes-là de perdition, ils vont renier le maître qui les a rachetés, puis ils vont tirer sur eux une ruine soudaine. Le but des faux, c'est de nous détourner du vrai. Le but du faux, c'est de nous détourner du vrai. On le sait qui est le vrai. C'est notre Seigneur. C'est lui qui a tout accompli. Il est mort sur la croix il y a 2000 ans pour payer la dette de nos péchés. Par son œuvre accomplie, nous avons été rachetés. Par notre foi, nous avons eu accès à ce cadeau-là. Puis il nous l'a donné. Nous l'avons. Ne nous laissons pas enlever ce que Dieu nous a donné. 1 Timothée 4, 2, 4.1, il dit, « Mais l'Esprit, là c'est Paul qui est encore à l'écoute de l'Esprit de Dieu, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, où je pense qu'on est pas mal rendu là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient prêts avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. » Ce que je veux peser sur ce verset-là, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne un avertissement dans ce verset-là. Sommes-nous à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu? Dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'Esprit de Dieu est en train de parler présentement. Il est en train de nous ramener ce qu'il a déjà mentionné aux apôtres, que dans les derniers temps, où pensez-vous qu'on est rendu présentement? Dans les derniers temps. On ne peut pas être plus dans les derniers temps qu'on est là. Cette parole-là a été écrite il y a 2000 ans. Puis 2000 ans plus tard, on est rendu à plein de signes qui sont écrits dans la parole de Dieu, qui sont en train de s'accomplir. Il y en a d'autres qui viennent, qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Puis ces signes-là qui sont en marche, c'est pour nous avertir qu'on soit à la guet. Nous sommes rendus dans les derniers temps. Préparez-vous! L'Esprit nous dit que dans les derniers temps, il y en a plusieurs qui vont abandonner la foi. La foi en quoi? Pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Tout à l'heure, j'ai dit que les faux prophètes, ils font beaucoup de miracles pour séduire. Fait que ces esprits séducteurs-là, ils savent que les gens, nous, les humains, on est facilement attirés vers le spectaculaire, vers des miracles, vers des choses extraordinaires. Je dis pas qu'il y en a pas de miracles quand t'es chrétien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est pas à cause qu'on voit des miracles que c'est chrétien. C'est pas à cause qu'on voit des miracles que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible nous le dit dans plusieurs versets que le diable aussi en fait des miracles. Puis il faut être en mise en garde par le mot « prenez garde » qui est 22 fois dans le Nouveau Testament. Wow, là, à cette heure-là, wow, faut que je fasse attention, là. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? C'est-tu toujours l'Esprit de Dieu? On entend des prophéties, on entend des paroles qui annoncent des affaires qui s'accomplissent pas. Encore dernièrement, quand il y a un soi-disant frère qui a prophétisé le retour de Jésus, là, une couple de semaines, puis qu'il y a du monde qui ont hypothéqué leur maison, qui ont lâché leur job, qui ont tout fait, ils sont endettés pour mettre des grosses pancartes sur le bord du chemin, que ça a coûté des fortunes, pour dire « la fin du monde est arrivée », puis ainsi de suite, puis il ne s'est rien produit. Le lendemain que le gars s'est réveillé de ça, lui, il s'est dit « ouch, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai lâché ma job, me suis endetté de 50 000 d'hypothèques, mettons, pour mettre des pancartes partout. » Il se réveille avec un dur choc, puis après ça, il va-tu dire « Dieu, il est menteur. Dieu n'a pas accompli sa parole prophétisée. » Puis cette personne-là va-tu se mettre à en vouloir à Dieu, puis à rejeter Dieu, parce que cette personne-là a été séduite par un faux prophète, puis se fait la deuxième fois que cette personne-là annonce des fins du monde. Puis il en annonce encore, il dit « Oh, je me suis trompé, je l'annonce pour l'automne. » Pourtant, là, Jésus lui-même, quand il était sur la terre, lui qui savait tout inspirer, ce qui était l'inspiration même de Dieu sur la terre, il dit « On ne sait pas quel jour ni l'heure. Soyez juste prêts quand que ça va arriver. » Mais ça, c'est un exemple. Il y en a des dizaines, je pourrais vous en mentionner, de d'autres esprits qui envahissent l'Église. Je ne sais pas si vous avez connu l'esprit du renouveau, voilà une dizaine d'années, une quinzaine d'années. D'autres esprits qui infiltraient les églises et que les gens recevaient par imposition des mains. Après ça, ils tombaient à terre, ils faisaient le chien à quatre pattes, puis ils jappaient, puis ils se roulaient comme un serpent. D'autres esprits envahissaient l'église pour des expériences supposément surnaturelles qui venaient de Dieu, qui ne sont pas écrites dans ma Bible. Puis que, de toute façon, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu... Il veut pas que le monde rentre et nous traite de fous, mais c'est ça qui est en train de se passer, en train de ridiculiser l'Église du Seigneur, des esprits moqueurs qui s'est infiltré. Faut pas s'étonner que c'est là. On était averti dans plein de versets que c'était pour être comme ça dans la fin des temps. Faites juste attention à ne pas vous faire imposer les mains par n'importe qui, n'importe quand, puis à vous recevoir toutes les déclarations. Quand vous entendez quelqu'un déclarer quelque chose, vous lui dites « Dans quel verset t'as vu ça? T'as-tu un verset pour appuyer ce que t'es en train de dire? » Mais il y a des gens qui sont séduits par ces esprits-là parce qu'ils voient des miracles, mais puis ils enseignent des doctrines de démons, des enseignements non bibliques. Puis ça dit, c'est par l'hypocrisie de ces faux docteurs-là qui portent la marque de la flétrisseuse dans leur propre conscience. Ces docteurs-là, ces enseignants-là, le savent eux-mêmes dans leur tête que ce qu'ils font n'est pas correct. Mais ils font ça pour des buts autres que d'annoncer le message de l'Évangile. Vous allez le voir plus tard dans l'étude, qu'il y a plein de buts quand on va découvrir le point en commun, tous ces prophètes-là, là, puis c'est fou. On va dire, waouh, il y en a des très proches de nous autres. Dans ces enseignements-là, puis dans ces choses-là qui se vivent. Une autre affaire qui nous dit de prendre en garde, Paul, des faux circoncis, des faux frères. En réalité, c'est des non-convertis qui se déguisent en frères, puis qui sont dans les églises, puis qui peuvent te dire des affaires qui ne sont pas de Dieu. Dans Galates 2:4, Paul y dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour nous épier, pour épier la liberté que nous avions en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Quel est le plus gros sujet qu'on retrouve dans Galates? Qu'il y a des gens dans l'église de Galates. Ah, mais quand tu es chrétien, faut que tu te fasses circoncire, faut que tu retournes pratiquer la loi de Moïse si tu veux être sauvé. Fait qu'ils veulent penser d'établir leur propre justice. Faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse pour essayer de gagner le ciel. Paul le dit, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira plus de rien. Puis là, il lui dit, vous êtes déchus de la grâce, séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans les œuvres de la loi. Si vous vous faites circoncire, Christ ne servira plus de rien. S'il y a des gens qui ont reçu le cadeau de la grâce, puis ils se disent, là, je pense que c'était pas suffisant, là, je pense qu'il faut que je retourne pratiquer la loi de Moïse pour être sauvé. Ils sont en train de dire que Jésus n'a pas tout accompli. Ce que Jésus a fait, c'était pas suffisant. Il faut aussi que j'établisse ma propre justice pour être sauvé. Mon cadeau que j'ai reçu, c'est pas suffisant. Là, parce qu'on entend des menteries qui nous dit « Retourne à la loi, il faut que tu repratiques les principes de la loi. Christ n'a pas aboli la loi, puis celui qui enseignera à pas les appliquer, il sera le plus petit en servant des versets comme ça. » Mais ça, c'est pris hors contexte. C'est vrai que la loi est encore là, puis on la supprime pas, la loi. Mais la loi est plus pour le chrétien. La loi est pour les gens qui sont pas convertis. Parce que quand tu es en Christ, tu es mort à cette loi. Tu as été enseveli, tu es ressuscité, tu es une nouvelle créature qui purifie à la loi de ce monde, tu es en Christ, puis là tu es sous la loi de Christ. Fait que tous ces principes-là restent encore, mais pour les juger le reste du monde qui ne sont pas encore convertis. Fait qu'on n'enlève pas la loi, mais dans le Nouveau Testament, Jésus a tout résumé dans l'amour. Il dit, celui qui aime, il accomplit la loi. Si tu marches, une fois que tu as reçu Christ, demeurons dans l'amour. Puis l'amour ne fera pas de mal à notre prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Tandis que ces faux frères-là, ils s'est introduits furtivement. Savez-vous ce que ça veut dire, furtivement? En cachette. Quand ils parlent des jets qui sont furtifs, là, ils deviennent invisibles, ils sont indétectables, puis ils peuvent rentrer, aller dans un autre pays, puis ils ne seront même pas détectés. Mais là, c'est qu'il y a des furtifs dans, je dis pas ici à Saint-Rémy, là, mais dans l'Église en général, il y a des furtifs, des déguisés, des dissimulés, qui ne sont pas des gens réellement convertis. Mais ils rentrent dans l'Église pour étudier comment les chrétiens vivent, dans le but de les asservir, dans le but de les tromper, dans le but, comme dans ce cas-là, dans Galates, dans le but d'amener les chrétiens à retourner à la loi de Moïse, puis de les asservir à nouveau à tout ce que Paul venait de leur enseigner dans Galates, il leur a dit ça. Il y a des faux frères dans l'Église qui essayent de nous capturer, puis de nous rendre encore esclaves de la loi de Moïse. Ça fait partie du faux qui peut s'introduire. Peut-être que vous n'avez pas été en contact avec des gens qui vous enseignaient ces choses-là. Ben moi, sur Internet, dans Facebook, je l'ai voué. Il y en a encore des chrétiens aujourd'hui qui sont encore accrochés à la loi de Moïse, puis ils en mettent encore une importance, puis ils sont encore accrochés et liés à ces idées-là. Mais pour moi, quelqu'un qui pense être sauvé encore par la loi de Moïse, c'est pas un converti à Christ. Parce que faut que tu deviennes conscient que tu ne pourras jamais te gagner ton salut. Tout est accompli en Jésus. Restons accrochés dans l'œuvre accomplie de Jésus. Christ est notre achat. Il nous a rachetés. Il nous a libérés. Il nous a pardonnés. Il nous a donné son esprit comme gage de notre héritage, comme quoi qu'on lui appartient. Puis il va venir nous chercher un jour. C'est déjà fait. Demeurons dans la vraie foi. Puis Paul, dans 2 Corinthiens 11, 26, nous le dit, « J'ai été fréquemment en voyage, j'ai été en péril. » Puis quand tu lis la fin de ce verset-là, « En péril parmi les faux frères. » Ça y causait du trouble dans les églises, ces faux frères-là. Ces faux frères-là semaient des divisions. Ces faux frères-là amenaient les chrétiens à se diviser, puis à se rebeller contre ce que Paul leur enseignait. Et comme qu'on a vu aussi, ah oui, ce que je veux vous dire, c'est qu'allez pas penser demain matin que chacun des membres de votre église sont des faux. Non, c'est, il y a des vrais dans l'église. Ça peut être tous des vrais dans l'église que vous êtes. En autant que tout le monde demeure dans le vrai, vous êtes des vrais. Est-ce que ça peut arriver qu'un vrai dit une fausseté? Oui. Quand on est venu au Seigneur, on commençait à découvrir les choses, puis on proclame des affaires, puis on grandit, on apprend des choses qui sont plus les choses de la Bible, puis là, on dit des choses, puis après ça, on continue à réaliser, oh, c'est bien plus profond, puis là, des fois, ça se peut que dans notre cheminement, on ait dit des choses qu'on n'aurait peut-être pu se faire traiter de faux prophètes, de faux docteurs, de faux enseignants, tu sais, puis qu'on a enseigné des faussetés, qu'on a peut-être sous des impulsions d'émotions, on va le voir dans la suite de l'étude, des choses qui nous ont... On pensait que c'était Dieu, puis c'était pas Dieu. Pourquoi qu'on c'était pas Dieu? Parce qu'en approfondissant ce que Dieu dit, on peut pas proclamer des choses qui sont contraires à ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. Tout ce qu'on a besoin de savoir est là. On va le voir dans la suite de l'étude, qu'il est important de rester dans ce qui est écrit, puis de ne pas aller plus loin. Puis la Bible nous parle aussi de la venue du faux prophète et de la bête qui est le gouvernement mondial, puis c'est en train de s'installer présentement. Ça fait longtemps que c'est en marche. Dans Apocalypse 16-13, ça nous dit qu'est-ce qui est en arrière de ce faux prophète-là qui va séduire les habitants de la terre. Apocalypse 16-13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car, écoutez bien celle-là, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Ah, je pensais qu'il y avait un Dieu qui pouvait faire des miracles. Non. Détrompez-vous. Les démons font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est en arrière du système de la bête qui est en train de s'installer et du gouvernement mondial? La bête est là, la bouche de la bête. Quelle bête? Mais dans Apocalypse 13, il nous parle de deux bêtes. Les deux sont mentionnées là. Il y a la bête politique et la bête religieuse. Les deux bêtes sont là, les deux sont mentionnées là. La bête et le faux prophète, qui est la bête religieuse. Deux systèmes qui vont s'élever et qui vont gouverner la terre. C'est en train de s'installer présentement. Qu'est-ce qui est en arrière de ça? Des esprits de démons, des esprits impurs. Des démons qui sont capables de faire des miracles. Comme je vous ai dit tantôt, dans Matthieu 24, que Jésus nous a averti qu'il y aurait des faux prophètes qui font des miracles au point de séduire. Mais particulièrement à la fin, il va y avoir un faux prophète que lui va en faire des miracles et des prodiges, accompagnant la bête pour rassembler cette immense armée-là pour aller la préparer à l'encontre du retour de Jésus-Christ. Ça va être la guerre. Mais ils veulent ça, c'est ça qu'ils veulent arriver. À rassembler, faire la guerre à Jérusalem, puis ça sera pas... Il y en a qui pensent que les Juifs peuvent pas être atteints, mais ça, c'est pas ça que la Bible a dit. Ils vont être envahis, les nations vont se tourner contre elles, puis ça va être des temps de jugement, pas juste pour Israël, mais l'Israël non converti, pas les croyants, et les nations vont être rassemblées pour le grand jugement que Dieu va faire à son retour. Mais c'est pas ça qui est le point. Le point, c'est que il y a du faux qui se véhicule, puis ça circule. Maintenant, je vais vous parler de quelques points en commun qui ont les faux frères, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux Christ, les faux prophètes, les fausses évangiles, les faux esprits qui sont particulièrement injectés dans les chrétiens, puis les faux Jésus qui circulent dans les enseignements. Toute cette fausseté-là, parce que c'est ça qui est le but du message, de discerner le faux. On va voir des points en commun que tous ces faux-là ont, puis quand on voit ça, on va dire « ouch ». Jean 8, 44, il y a une vérité dans ce verset-là qui nous amène à comprendre qu'est-ce qui se passe dans les faux. Jésus parle à certaines personnes qui sont autour de lui, des gens très religieux, des gens qui avaient de l'air à être des messagers de Dieu, parce que c'était des Juifs, religieux, Ça va de l'air être les gens à consulter quand tu vas apprendre quelque chose sur Dieu. Jésus leur dit ouvertement, « Vous avez pour père le diable. » Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le diable, il est menteur et le père du mensonge. Le diable, il n'a pas de vérité en lui-même. Le diable, il ne se tient pas dans la vérité. Puis les gens qui sont animés de cet esprit-là du diable, ils vont accomplir les désirs de leur père. Qu'est-ce que les Juifs religieux de ce qui entourait Jésus, qu'est-ce que ces Juifs-là voulaient faire à Jésus? Ils voulaient le tuer. Fait que, comment ça se fait que des gens religieux qui suivent Dieu veulent tuer quelqu'un d'autre, puis en plus, pas tuer n'importe qui, tuer l'envoyé, le Messie, le oint? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, ces Juifs religieux-là? Il s'opposait à la révélation de la vérité. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train d'annoncer ce qui était la vraie chose. Il annonçait la vérité. Quand Jésus parlait, en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce que ces Juifs-là essayaient de faire? De faire taire la foule, de faire battre la foule, faire battre les disciples, chercher à tuer Jésus, s'opposer publiquement à ce que Jésus est en train de proclamer. Pourquoi que les gens réagissent comme ça? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de vérité en eux. Puis ils connaissent pas la vérité, puis ils peuvent pas se tenir dans la vérité. Quand ils proclament des choses, c'est toujours des choses fausses. Qu'est-ce que je dois comprendre qui va animer les faux prophètes? C'est que les faux prophètes ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Est-ce que ça veut dire qu'un faux prophète ne peut pas prendre le verset de la Bible? Non. Parce que la preuve de ça, qu'est-ce que le diable a dit à Jésus quand il a tenté Jésus dans le désert? Il arrive à Jésus, il l'a mis sur une montagne élevée, puis il a dit, « Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, puis te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Puis l'autre tentation, c'était
changer les roches en pain.
Il prend en cause, il sait qu'est-ce qui est Jésus, mais quand son approche en utilisant des versets, c'est toujours en tordant le sens du verset pour faire dire au verset ce que ça ne dit pas, ou faire dire au verset des idées qui sont contraires à d'autres versets. Change ces roches-là en pain, Jésus lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas interpréter la Bible dans des idées qui sont contraires à d'autres versets de la Bible. Quand les gens enseignent des choses, puis ils contredisent la Bible, puis affirment des choses qui sont contraires à des versets, ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils sont en train de parler de leur mensonge en utilisant des versets pour les tordre, pour faire dire d'autres choses, pour amener le chrétien à pécher contre Dieu. Si Jésus aurait dit « Ouais, ben je vais le faire » puis il s'arrache en bas pour voir si Dieu était pour le ramasser. Tentez Dieu pour voir si ça va marcher. Jésus, il a dit, il est aussi écrit, « Tu tenteras point, Seigneur ton Dieu. » On ne doit pas utiliser des versets pour faire exprès à les provoquer pour voir si Dieu va te répondre à ta prière, pour faire comme tenter Dieu, voir si ça marche. Mais le diable, quand il ne se tient pas dans la vérité, il sert de verset pour t'amener toujours dans manière tout croche. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève, comme Jésus au début? Dieu
dit des choses, mais Dieu, as-tu réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il prend des bouts de ce que Dieu a dit, mais il est capable de mettre d'autres idées là-dedans pour déformer l'idée, pour essayer de mêler. Un faux prophète cherche à mêler, un faux prophète peut pas prêcher. Il va prendre des versets, mais quand il les explique, ça tord le sens. Puis il sort en dehors de ce qui a été annoncé, puis ça va en contradiction avec d'autres versets. Ils peuvent pas rester dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en eux-mêmes. Ils peuvent répéter ce qu'ils ont appris, mais souvent c'est ça qui se passe. Ils ont tellement appris de choses qui ne viennent pas de la Bible que quand ils expliquent avec les commentaires des commentaires plutôt d'expliquer avec des versets. Un autre point qu'ils ont en commun, Actes 6-13, quand les faux prophètes font des trafics pour essayer de tromper le monde, ils produisirent de faux témoins. Qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint, contre la loi. Qu'est-ce que les faux prophètes sont capables de faire? Produire des faux témoins. Comment est-ce que je dois comprendre ça? Avez-vous déjà entendu dans les églises ou dans les choses qu'on entend, là, que des gens qui se disaient « je suis guéri », puis deux, trois mois après, ils n'étaient pas guéris du tout. Il est encore pareil. Ils proclament des choses qui ne sont pas vraies. Donc, ils sont devenus de faux témoins. Il y a des gens présentement, comme un que je ne veux pas nommer, qui fait beaucoup de miracles. Tu écoutes les commentaires de ceux qui parlent de lui. Puis ils sont tous en train de démentir les miracles, c'était toutes des choses arrangées, ou des fois, comme un autre que j'ai entendu, le gars, il avait un micro dans son oreille, fait qu'il questionne le monde quand il rentre, puis il y a du monde qui parle dans son oreille pour dire, une telle a dit qu'elle a mal dans le dos, fait que là, il fait un appel, puis il pointe la personne, vous avez mal dans le dos, mais arrêtez, c'est tout un mensonge, c'est tout trafiqué. C'est toutes des faux témoins ou des affaires arrangées pour faire à croire que vous. Peut-être qu'ils sont bien intentionnés, ça va stimuler la foi. Mais c'est tout du mensonge. Un serviteur de Dieu ne peut pas faire ou agir avec hypocrisie, puis mensonge, puis des trafics pour essayer de tromper le monde, pour faire des accroires. Tu l'es guéri ou tu ne l'es pas guéri. Tu peux pas dire t'es guéri si tu ne l'es pas, à moins que tu sois un faux prophète. Tu peux pas proclamer que l'autre est guéri si elle s'est pas faite examiner puis que quelqu'un ait constaté qu'il était guéri. Jésus a dit aux lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Fallait que le sacrificateur analyse les lépreux puis qu'ils disent, en effet, ils n'ont plus la lèpre. Là, ils pouvaient réintégrer le camp. Ça veut dire, tu dois faire attention à tes proclamations. Puis de faire vérifier si vraiment tu es guéri. J'ai entendu de mes yeux dans des réunions qu'une personne avait une jambe plus courte que l'autre à cause d'une infirmité. Puis pendant qu'il y avait leur réunion, la patente, moi je crois au vrai miracle. Je n'ai vu des mal de tête, des mal de dos, des problèmes qui ont été guéris, puis constatés, puis confirmés. Je n'ai vu. Mais il y en a du faux dans certaines affaires. C'est ça qu'il faut faire attention, parce que ça déçoit après quand t'entends que c'était pas vrai. Ça crée des déceptions, puis ça décourage les chrétiens. Puis les gens, ils disaient, « Nous voyons sa jambe rallongée! » Puis là, la personne dans la réunion, « Ma jambe a rallongé! » Une semaine ou deux après, la personne t'allait voir le médecin, « Sa jambe a jamais rallongé! » Tout ça, cette cérémonie-là, tout ce rituel-là qui s'est produit, puis ces fausses proclamations, ça a fait à croire que la jambe était vraiment rallongée, mais il n'en avait pas de jambe rallongée. Ça a fait quoi? Mais quand tu n'as une fois que ça arrive, tu peux dire, il y a une erreur dans la gang, une erreur. Mes erreurs, c'est l'esprit de l'erreur, c'est pas l'esprit de vérité. un qui arrive, deux qui arrivent, trois, tu n'entends quasiment tous les semaines des faussetés. Qu'est-ce qui se passe? Fait que l'esprit qui est rendu ici, on devient déçu, puis le monde, vu qu'il ne voit pas d'autres églises, puis il se dit, c'est tout ça l'église du Seigneur, c'est une gang de menteurs. Puis là, ils vont racheter Dieu parce qu'ils voient rien que des faussetés, des faux témoins. Mais ça, c'est la spécialité des faux prophètes, d'arranger les affaires pour faire des faux témoins. Il y a d'autres points qui sont bons pour comprendre qu'est-ce qui est faux. Colossiens 2, 18. Ça, je le sens. La plupart de tous ces points-là que je vais vous dire, j'ai été témoin de toutes ces choses-là. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Quel est l'avertissement de Paul aux Colossiens? Que personne, sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges. Savez-vous c'est quoi un culte des anges? Nous, notre culte, il est à Dieu. Notre réunion qu'on fait, ce n'est pas offert à autre personne qu'à Dieu le Père dans le nom de son Fils Jésus. Quand tu es rendu que tu fais un culte aux anges, c'est que tu places les anges au centre de ta réunion. Remercions l'ange de bénédiction et d'abondance qui nous a bénis, qui nous a pourvus financièrement. Je l'ai entendu de mes propres oreilles dans une réunion que je nommerai pas où. Que les gens s'abandonnent à leur vision. Ben, c'est ça que ça dit dans ce verset-là. Ils s'abandonnent à leur vision, ils sont enflés d'un vain orgueil par leurs pensées charnelles. Ces gens-là, qui rendent le culte aux anges, ils s'abandonnent à leur vision. Ils acceptent tout ce qu'ils entendent de cet ange-là. Ça, c'est un peu ce que j'expliquais tantôt. Tu peux avoir une révélation, un ange qui t'apparaît, puis que tu décides de servir cet ange-là. C'est pas ça qui est arrivé un peu, que l'apôtre Jean est influencé dans l'Apocalypse, quand il a vu l'ange qui montrait toutes les révélations. Jean était prêt à tomber à genoux devant cet ange-là, puis l'adorer. Puis l'ange, il a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères, Jésus. Les anges sont pas là pour être glorifiés et élevés et servis et amener le culte aux anges. Les anges sont là pour être nos compagnons, pour travailler avec nous dans le combat puis dans la lutte. Puis Paul le dit, mais un ange t'apparaît, s'il t'amène pas l'évangile qui est annoncé, qu'il soit anathème. Paul le dit aussi dans le même texte, il dit quand même, nous-mêmes, on annoncerait un autre évangile, qu'on devienne anathème. Anathème, ça veut dire excommunié, disqualifié, maudit, jeté dehors. Même les apôtres, même les anges qui sont envoyés de Dieu ne enseigneront jamais autre chose que ce qui est déjà enseigné dans la parole de Dieu. Puis il dit qu'aucun homme sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Combien de fois qu'on a des avertissements, dit, faut que tu persévères jusqu'à la fin, garde le cap dans la foi qu'il est, la foi transmise aux saints. Reste fidèle jusqu'à la fin. Laisse-toi pas voler les promesses de Dieu. Laisse-toi pas ravir de la course pour t'amener à un culte des anges. C'est ça que ça nous dit. Mais les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, les faux Christ, les faux Messie enseignent le culte aux anges. Puis je l'ai entendu de mes oreilles dans une église. Une autre affaire, vous êtes bien assis, vous allez tout tomber en bas de votre chaise quand vous allez entendre ce verset-là. Oui. Romains 1, 23. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour toutes ces affaires-là qui nous montrent C'est quelque chose, puis ça nous remet dans l'idée, wow, faites attention. Romains 1, 23 nous dit, « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. » Qu'est-ce que ce verset-là m'enseigne? Sur la pratique des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes, des fausses évangiles. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Moi, le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui est en esprit, en vérité. C'est le Dieu tout-puissant, omniprésent, grandeur de l'univers. Tout est créé en lui, puis on ne peut pas le représenter. Mais les faux prophètes ont changé la gloire de ce Dieu-là en image. En image, en statuette, en statue. Des objets de culte qui représentent des hommes, qui représentent des animaux, qui représentent des poissons, des oiseaux. Puis il dit, c'est ça le Dieu. Il s'agenouille devant ces images-là. Oh, c'est sacré. C'est le sacré cœur de Jésus. Jésus est sur la croix. Jésus n'est pas sur la croix. Jésus a été sur la croix. Ça fait longtemps qu'il n'est pas dit, puis là. Il était là une 3 heures de sa vie. Il est dans la droite de Dieu. Puis il règne éternellement. Il est le Tout-Puissant, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis il est rendu, il a reçu la plénitude de Dieu, dans le sens qu'il est de tout ce qui remplit tous en tous. Tout est créé en Jésus. Jésus n'est pas un crucifix ou le petit bonhomme qui est sur la croix. La minute qu'on commence à prendre des objets de culte, qu'on représente Jésus, là où on met Marie à côté, puis on met le petit Jésus dans la crèche, puis là on est là, puis on pense que c'est lui, puis on fait tout pour le respecter, puis on l'aime, puis on est quasiment en train de se mettre à genoux devant, là. Ben nous autres, on fait pas ça. J'espère bien. Mais il y a plein de monde qui disent servir Dieu, puis qui font ça. Ils sont tous idolâtres. L'idolâtrie, c'était condamné dans l'Ancien Testament sous peine de mort. Puis le Nouveau Testament, c'est encore aussi condamné. Savez-vous qu'aucun idolâtre n'entrera dans le royaume de Dieu? Puis quand on dit image, idoler une statue, une image, une photo, une représentation, ou adorer un humain qu'on élève sur un piédestal, es-tu bon comme joueur de hockey? On est quasiment à genoux devant. Des vedettes de cinéma, Arnold Schwarzenegger. Hey, on les verrait passer, puis on est quasiment venu tout croche, puis on est prêt à tomber à leurs pieds. C'est du péché. C'est du péché. Jamais un chrétien ne doit se tourner vers aucune autre personne que Dieu son Père ait plié le genou devant Dieu son Père, révélé à travers son Fils Jésus, enseigné dans la sainte doctrine de la parole de Dieu. Tout ce qui est idolâtrie, la Bible appelle ça des idolâtries criminelles. Il y en a que pour les idolâtries sont prêts à tuer.
Le croissant Dieu.
Hein? Il y en a des multitudes des objets comme la lune, les étoiles, ils adorent les étoiles, la lune, le soleil. Le Dieu soleil, là, en Égypte, il appelait ça Ra. Le Dieu. C'est ça que... Mais quand c'est rentré dans l'Église, puis quand les Églises parlent de Dieu, de Jésus, puis du Saint-Esprit, puis il y a plein de ces idoles-là. C'est une horreur à l'Éternel. Dieu, il y a ça en horreur, l'idolâtrie. Gardez, petits-enfants, gardez-vous des idoles. C'est un autre verset. Puis quand il y a les dans l'acte que tu vois, qu'est-ce qu'on va enseigner aux nouveaux convertis? Ben, on va lui dire, parce que c'est prêché dans la loi de Moïse aussi, de s'abstenir d'animaux étouffés, du sang et de l'impudicité et des idoles, chose que vous feriez bien de vous mettre en garde. Pourquoi qu'il mentionne ça, les idoles? Parce que ça a toujours été dans le cœur de l'homme de rechercher à se prosterner devant ces images-là, ces statues-là. Ça, c'est pas d'hier. Ça a toujours été. Jude 1:8. Il reste juste trois petits versets. Jude 1:8. Une autre manière de discerner un des points qu'ils ont en commun tous les faux prophètes. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés dans leur rêverie, ils souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Si tu vas lire ce verset-là, ça s'adresse à des chrétiens qui sont dans l'Église. Mais ils sont entraînés par leur rêverie. Un autre verset va dire, « Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. » pour vous empêcher de mettre en pratique la parole. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça m'est déjà arrivé. Ça est arrivé à plusieurs personnes que j'ai déjà rencontrées. Les gens ont comme, il dit, j'ai eu comme une révélation. J'ai fait un rêve. J'ai fait un songe en pleine journée où il me semble que je vois. Là, ils disent qu'ils voient comme une image. Puis là, ils t'amènent des choses. Je crois que l'Esprit de Dieu peut donner des révélations de paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des songes, des rêves, parce que Dieu l'a promis de le faire à ses disciples. Mais, il y a des gens qu'eux autres, leur priorité, c'est leurs rêves, leurs songes, puis leurs visions, puis leurs révélations qu'ils ont. Mais ils n'examinent pas face à ce que la Bible dit pour sonder, voir si c'est biblique. Parce que ces gens-là sont prêts à renverser tout ce qui est autour. On s'en fout de ce qui est écrit dans la parole. Moi, j'ai fait ce rêve-là, puis ils sont emportés. Un exemple? Mahomet, ça en est un. Mais là, quand on parle dans l'Église... J'ai parlé l'autre jour de ce pasteur-là que j'ai vu sur Internet. J'ai écouté son témoignage qu'il racontait vidéo que j'ai vu le gars en train de parler. Il était pasteur d'une église pentecôtiste. Là, il sentait quand dans lui qu'il y avait un problème avec les femmes, avec, surtout avec la mère, avec sa mère, parce qu'il avait eu des blessures quand il était dans le passé. Là, dans un sens, ça le faisait réagir qu'il avait de la misère avec sa relation avec son épouse, puis envers les femmes. Il cachait ça, mais il vivait que c'était un problème qu'une guérison qu'il n'avait pas eu dans son cœur. Mais à un moment donné, oups, il entend une voix qui dit, « T'as un problème avec ma mère? » Là, lui, il dit, « C'est le Seigneur qui me parle. » Ah, oh, vu que c'est vrai qu'il avait un problème avec sa mère, « T'en veux à ma mère? » Puis là, ce gars-là, il dit, « Ouais, c'est... » Peut-être que j'en veux même à Marie, qui est la mère de Jésus. Combien de fois j'ai parlé contre Marie, la mère de Jésus? Parce qu'en majorité des fois, là, les pasteurs prêchent de ne pas adorer Marie, de ne pas la prier, puis ainsi de suite. Mais des fois, on peut aller trop loin, puis on en met trop, puis on est prêt à parler de Marie, puis la rejeter. Fait qu'il a entendu ça dans sa tête. De pas parler qui en voudrait peut-être à sa mère, à Jésus. Fait qu'il a fait le lien, ça doit être Jésus qui me parle, puis vu que j'aime pas les femmes, ou j'ai de la misère avec les femmes, j'ai peut-être pas pardonné à sa mère, puis ça serait une insulte à Jésus que j'en veux à sa mère. Puis, le raisonnement a abouti. Là, il a demandé pardon. Puis là, il est comme libéré de ça. Puis là, il a compris que sa mère est importante aux yeux de Dieu. Là, il a continué dans sa rêverie, dans son imagination, dans ses interprétations. Il a dit peut-être que Jésus, en fin de compte, voulait que je rende le culte à sa mère. Fait que là, le gars, le pasteur pentecôtiste, a lui-même décidé de commencer à rendre un culte à Marie. Puis après ça, dans son cheminement, il est devenu catholique. Puis après ça, il est rendu qu'il prie tous les morts. Ils ont tout accepté un par un, puis ils prient les saints selon la religion catholique. Ce que je veux en venir, c'est que ça peut arriver que Dieu nous donne une idée. Je dis pas que c'est pas Dieu qui a dit la première idée. Ce qui est le problème, c'est l'évolution de cette idée-là, en rajoutant, puis en pensant, puis en raisonnant. Puis là, on en rajoute, mais ça, là, ça nous entraîne loin de la parole de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous le dit pas toucher au culte des humains. Puis il y a pas d'autre ressuscité dans le ciel que Yeshua. Marie n'est pas ressuscitée, ça me fait de la peine à vous le dire. Marie n'est pas ressuscitée. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Marie est ressuscitée, puis que Marie est la mère de Dieu, puis que nous devons prier Marie comme intermédiaire pour atteindre son Fils. Entre le fait que je puisse avoir un problème de relation, un problème relationnel avec les femmes, entre ce fait-là et le fait de me mettre à m'agenouiller devant les femmes ou Marie, puis commencer à prier les maris, il y a une grosse marge, je pense qu'il y a comme une rêverie qui l'a entraîné pas mal loin. C'est ça que ça dit dans ce verset-là. Ils sont entraînés dans Jude 1:8, ils sont entraînés par leur rêverie, puis là ils se mettent à chier leur chair, puis ils méprisent l'autorité, puis ils injurient les gloires. On fait vite. Tite 1:11. Un autre point en commun des faux prophètes, quand vous allez lire ça aussi, vous allez reconnaître beaucoup d'affaires. Si on lit avant, ça dit, il y a beaucoup de faux circoncis auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Un autre point en commun que les faux ont, c'est que ce qu'ils font, ce qu'ils prêchent, ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils essayent d'amener les gens, c'est les amener à un gain honteux. Leur motif, leur mobile, c'est de faire de l'argent. Ils servent de la religion pour faire de l'argent. Il y a des prédicateurs, là, vous ne croiriez pas ça, qu'il y a des millions de dollars qui rentrent dans leur église, puis qu'il y a des salaires qui se payent des fois, c'est complètement déconnecté entre, moi je crois, à la règle d'égalité. La Bible a dit, celui qui a plus, il donne à celui qui a moins, afin que ça soit égal. C'est ça qui est le plan de Dieu. Ça se peut pas qu'une église de travailleurs, puis que tout le monde gagne alentour entre 20 et 30 000, puis que le pasteur ait 250 000 de salaire, ou 125 000 de salaire, quand la majorité de toutes ces brebis en gagne 25-30. Ça se peut pas. Il y a une déconnexion de la réalité. Je juge pas personne. Mais analysons face à la parole de Dieu, qu'il y en a qui vivent pour le gain honteux. Quand tu apprends ça, tu as honte de cette situation-là. Quand c'est étalé dans le journal, tout le monde va, les chrétiens vont avoir honte qu'un pasteur gagne un tel salaire comparativement à ses brebis, puis ça fait un scandale, puis après ça, le monde, il juge l'Église, puis il rejette le Christ à cause qu'il se passe des trafics comme ça de gains honteux. C'est honteux. C'est plus une règle d'équilibre, là, c'est rendu le pasteur, il est là, puis tout le reste de la gang est là, puis là, ils vont continuer à prêcher en plus, moi, je serais gêné. Donner encore plus, puis ils vont mettre l'obligation à la dîme, puis les jugements, les condamnations qui vont avec. C'est inadmissible. Ceux qui ils veulent avoir une idée de ce que je pense sur la dîme, j'ai dans le site internet, de l'Église et de mon site personnel, j'ai fait un enseignement sur les offrandes, le chrétien et les offrandes. Allez écouter ça, puis ça va vous donner une idée ce qui est un peu ce que la Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament sur comment donner. C'est normal donner, on donne avec joie, on donne de bon cœur, on donne parce qu'on aime. Puis si vous sentez qu'il y a de la pression, puis de la culpabilité, puis c'est pas de Dieu. Dernier point, Jérémie 23:32, pour clore la mise en garde. 23:32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux. Dieu y en veut. à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donné d'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Voyez-vous, c'est pas d'hier que Dieu parle de cette façon-là, de prendre garde, puis que Dieu a déjà jugé ces personnes-là qui égarent le peuple, puis qui entraînent le peuple dans des mensonges, dans des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur, qui essayent de détourner les frères et sœurs de leur regard sur le Seigneur, les amener à rendre des cultes aux anges et aux humains, d'essayer d'amener les gens à croire qu'il y a une autre voie pour être sauvés, car un autre Jésus, le petit Jésus qui est en dessous de Marie pour essayer d'être sauvé, puis qu'il y aura la religion sauvée par tes œuvres, c'est tout des égarements de fausseté qui se véhiculent aujourd'hui. Frères et sœurs, si vous avez senti lors du message qu'il y avait des choses que ça venait vous chercher, première chose que j'ai dit au début du message, c'est dans le but qu'on se sonde, chacun de nous qu'on se sonde face à Dieu. Est-ce que j'ai laissé entrer ces idées-là dans mon esprit? Est-ce que je me suis fait influencer ou est-ce que je suis attiré par des choses que je vois que là maintenant que c'est pas de Dieu? Faut briser ces liens-là dans le nom de Jésus, parce qu'il y a en arrière des faux prophètes, puis des fausses doctrines, puis des enseignements, il y a des esprits séducteurs, il y a des doctrines de démons. Fait que ces esprits-là gardent les chrétiens captifs dans des mensonges. Après ça, quand les gens expliquent des choses sur ces sujets-là, ils égarent le reste du peuple. Il faut être capable de dire, à partir d'aujourd'hui, ces choses-là, je les rejette. Dans le nom de Jésus, je n'accepte plus aucune fausseté. J'accepte plus rien ce qui vient pas de la parole de Dieu. Que les vérités que j'entends, faut que ça vienne être écrit par des versets. Et tu amen à cela?
Amen.
On va prier Dieu dans ce sens-là. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour ces avertissements-là. Merci de nous faire comprendre que le faux est là et ça nous entoure. Merci, Seigneur, de nous le révéler. Mais maintenant, Seigneur, je prends autorité dans le nom de Jésus, ton Fils, pour racheter toute fausse doctrine que j'ai reçue jusqu'à aujourd'hui et tout contact avec tout esprit autre que le Saint-Esprit que j'ai pu avoir dans ma vie. Je rejette toutes ces expériences et toutes ces faussetés dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton esprit puisse me remplir et m'amener à ce que je comprenne ta parole puis que je puisse marcher dans ta parole jusqu'à la fin. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils. Amen.